Réplique, la France face à l'immigration, avec Catherine Vitold-Venden et Stéphane Perrier. Le 19 décembre 1989, Éric Guibali, qui était alors secrétaire général de SOS Racisme, et le journaliste Guy Konopnicki publiaient une tribune retentissante dans le journal Libération, où ils écrivaient notamment « Il n'y a pas de problème immigré, il y a le racisme ». Nous sommes en 2017, et à mes deux invités, Catherine Vitold-Venden, qui publie « La question migratoire au XXIe siècle », et Stéphane Perrier, auteur de « La France au miroir de l'immigration », je voudrais, pour commencer en allant droit au but, demander s'ils souscrivent aujourd'hui au diagnostic d'Éric Guibali et de Guy Konopnicki. Y a-t-il un problème de l'immigration en France ou simplement un problème d'exclusion, de discrimination, bref, de racisme? Catherine Vitold-Venden.
Merci beaucoup pour cette question. Alors moi, j'aurais tendance à dire oui, je suis d'accord avec le titre de cet article de journal. La question de l'immigration est constituée en problème, fabriqué, si j'ose dire, notamment par certains partis politiques. On a des flux migratoires qui sont très inférieurs à ceux de beaucoup de pays européens. Le problème, il résiste peut-être dans le fait qu'on a tendance à réagir dans l'urgence, parce que la France a beaucoup de mal à s'accepter comme pays d'immigration, ce qu'elle est depuis longtemps.
Depuis
longtemps, on est un pays d'immigration depuis le milieu du 19e siècle.
Oui, c'est-à-dire depuis quand même moins longtemps que certains le disent, parce que j'entends quelquefois, même des historiens, affirmer que la France a toujours été un pays d'immigration. Or, me semble-t-il, la population a été relativement stable entre les grandes invasions et, en effet, le deuxième tiers du 19e siècle,
absolument,
où il y a eu une immigration de travail, et celle-ci a fortement augmenté après l'immense saignée de la Première Guerre mondiale.
Elle a augmenté, mais elle était déjà très importante à la fin du 19e siècle, parce qu'on était un pays en déclin démographique, bien avant nos voisins européens, dès la fin du 18e siècle. Et donc, on a eu une révolution industrielle qui a nécessité beaucoup de main-d'œuvre. Et au moment où il y avait un besoin de main-d'œuvre très important, on n'avait pas de gens pour occuper ces emplois. Ce qui s'est renouvelé après, dans l'entre-deux-guerres, mais c'était une période économiquement beaucoup plus, disons, atone. Et ensuite, on a eu une formidable poussée de croissance économique dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses 1945-1974. Et là, la question de la main-d'œuvre était la question cruciale pour remplir tous ces chantiers qui étaient en cours, aussi bien dans l'industrie que dans l'automobile, dans les mines à l'époque, la construction, etc. Et donc la France a fait appel bien avant ses voisins européens à l'immigration.
Alors, même question, Stéphane Perrier. Alors, problème immigré ou problème de racisme?
Alors moi, je ne souscris pas à cette formule qui me semblait, qui à mon avis était déjà fausse à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui. Il y a évidemment des problèmes de racisme et de discrimination en France. Hein, ces phénomènes existent et doivent être combattus. Mais il me semble en revanche tout à fait exagéré d'en faire la cause unique des problèmes associés à l'immigration. De la même manière d'ailleurs qu'il serait tout à fait faux de prêter à une prétendue mauvaise volonté des immigrés, ces problèmes. Ma thèse est que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne dépendent pas fondamentalement de la mauvaise volonté des uns ou des autres, du racisme prétendu des Français d'origine française, ou alors de la mauvaise volonté des immigrés les plus récents. À mon avis, les problèmes viennent à la fois de notre régime migratoire, marqué par une forte immigration familiale, et de notre manque d'ambition en matière d'intégration. Et je pense que ce sont ces deux phénomènes qui donnent à des comportements qui, dans l'absolu, seraient minoritaires, à savoir une hostilité de principe envers les immigrés ou un refus par principe de s'intégrer de la part d'immigrés, l'ampleur que nous leur connaissons aujourd'hui.
D'accord. Alors, bon, interrogeons-nous d'abord sur ce que vous avez dit, nouveau type d'immigration. Est-ce qu'on peut parler en ces termes, Catherine Vidal de Vinden? Parce qu'il est vrai que dans les années 70, deux mesures ont été prises quasi simultanément par Valéry Giscard d'Estaing. La fermeture des frontières à l'immigration de travail et le regroupement familial. Alors, et le regroupement familial, c'est-à-dire non plus une migration de travail, mais quelque chose quand même comme une immigration de peuplement. Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que c'est un nouvel âge de l'immigration qui s'est instauré à ce moment-là?
Alors, la fermeture de l'immigration de 1974, effectivement, prise par le secrétaire d'État à l'immigration, qui était M. Postel-Vinet, de 74, elle est survenue dans beaucoup d'autres pays européens. C'était la crise pétrolière, la fin de la période de grande croissance économique. Et donc, l'Allemagne avait déjà suspendu ses flux d'immigration de travail en 73, ainsi que les pays du Benelux. Donc, beaucoup de pays de l'Europe de l'Ouest avaient déjà fermé leurs frontières à l'immigration de travail salarié dès 73 et la France l'a fait en 74. Donc ça, c'est pas si original au cas français. Pour ce qui est du regroupement familial, Valéry Giscard d'Estaing souhaitait suspendre aussi le regroupement familial, faut pas l'oublier, mais c'est effectivement pendant la période où il était président que les tribunaux, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre d'associations de juristes, ont dit que le regroupement familial, comme dans tous les pays européens d'ailleurs, était un droit fondamental et qu'on ne pouvait pas interdire le regroupement familial. Et donc aujourd'hui, de toute façon, c'est un principe constitutionnel, le droit de vivre en famille. Et donc c'est sur une décision de justice que du Conseil d'État que le regroupement familial n'a pas été suspendu. Alors, est-ce que ça a amené une nouvelle ère de migration? Oui et non, j'aurais tendance à dire, puisque le regroupement familial, il existait quand même bien avant. On parle des familles polonaises, des familles italiennes, il y avait déjà beaucoup de familles algériennes qui étaient installées en France parfois depuis la fin du 19e siècle, ainsi que d'autres nationalités. Ça a accéléré la fermeture de l'immigration, le regroupement familial, parce que les gens ne pouvaient plus aller et venir, ce qu'ils faisaient beaucoup auparavant. Abdelmalek Sayad parlait de la Noria, pour parler des Maghrébins qui repartaient chez eux pendant 3 mois, qui revenaient ensuite, etc. Après 1974, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, beaucoup ont décidé, effectivement, de faire venir leur famille. Et ça a accéléré l'installation de l'immigration en France.
Mais alors, justement, Stéphane Perrier, est-ce qu'un certain nombre de problèmes n'ont pas surgi de cette mutation-là, immigration de peuplement, après la grande période de l'immigration de travail? Stéphane Perrier.
Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que selon moi, la séparation qu'on fait à partir de la présence de Valéry Giscard d'Estaing est un peu artificielle, parce qu'en réalité, si on regarde l'évolution des naissances en France issues d'au moins un parent étranger ou de deux parents étrangers, on voit que le mouvement commence dans les années 60, le mouvement d'augmentation, je veux dire. Donc prêter à Valéry Giscard d'Estaing une responsabilité, une action majeure en la matière, me semble assez exagéré. Pour le reste, il me semble clair que le caractère familial de l'immigration induit des changements importants. D'abord, il y a un effet de nombre, puisque au flux d'immigration proprement dit s'ajoute la naissance d'enfants par la suite. Par ailleurs, l'intégration est moins évidente que dans le cas d'un couple mixte ou dans le cas d'une immigration isolée. Si on ajoute à ça le changement de nature de l'immigration quant à l'origine géographique des immigrés, on voit bien que par définition, l'intégration est moins naturelle pour la simple raison que la distance culturelle est plus importante. L'intégration n'est pas empêchée, n'est pas du tout impossible. Nous avons beaucoup d'exemples qui le montrent. Mais je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est que nous n'avons pas pris la mesure collectivement de l'impact qu'aurait ce double changement, immigration familiale, origine des immigrés, sur notre capacité à intégrer les immigrés.
Alors justement, vous disiez en commençant, Stéphane Perrier, que c'était pas une question de mauvaise volonté ni de la part de la population, de la société française, ni de la part des immigrés. Alors le mot de mauvaise volonté est peut-être inutilement critique, mais du fait même du caractère de cette immigration extra-européenne qui n'a pas les mêmes repères que l'immigration européenne, ne peut-on parler d'une difficulté particulière dont ce qu'on appelle le communautarisme témoigne. Je pense à ce qu'écrit Elisabeth Badinter dans la préface à Une France soumise, le nouveau livre, le nouveau recueil de témoignages de Georges Bensoussan. Elle parle d'une seconde société qui s'impose insidieusement dans notre République et qui vise le séparatisme, voire la sécession. Caroline Valentin, qui a participé à ce livre collectif dans le débat de ce mois-ci, renchérit. Elle parle d'une contre-société dont les deux principes majeurs sont la victimisation communautaire et le rejet de l'identité culturelle de la France. Donc tout ça ne doit-il pas être pris en compte, même si on n'utilise pas nécessairement le mot de mauvaise volonté. En tout cas, il y a chez certains, enfin c'est la question que je vous poserai à tous deux, n'y a-t-il pas chez certains immigrés un refus non seulement de l'assimilation, mais même de l'intégration ? Stéphane Perrier.
Oui, bien sûr que cela existe, comme il existe chez certains Français, disons d'origine européenne pour faire simple, un rejet de certains immigrés qui n'est pas dû ni aux problèmes qui surviennent, ni au nombre, mais qui est un rejet de principe. Ces deux phénomènes existent et sont hautement problématiques. Ce que je dis, c'est que, à mon avis, ils n'ont pris l'ampleur l'un et l'autre que nous leur connaissons qu'à cause d'une forme de démission collective, à la fois quant à la régulation des flux, quant à la politique d'intégration, et au-delà de cette politique, quant à notre confiance en nous-mêmes, notre capacité à promouvoir notre modèle politique, nos valeurs, notre culture. Cela, c'est un problème qui dépasse de loin la simple question de l'immigration.
Catherine Vittel de Vanden.
Je ne suis pas sûre que ce soit une question de mauvaise volonté, mais il ne faut pas oublier que la France a essayé d'avoir d'un côté, surtout après 1945, sous l'impulsion d'Alfred Sauvy, d'un côté une politique d'immigration de peuplement et de l'autre côté une politique d'immigration de main-d'œuvre. Et en fait, elle a échoué puisque on avait tellement besoin de main-d'œuvre la question de l'arrivée des nouveaux flux a pris le dessus sur les préoccupations françaises d'avoir une immigration de peuplement. On n'a pas réussi à avoir les objectifs ni en chiffres ni en nationalité qui étaient fixés après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas un défaut de définition d'une politique, c'est un défaut de mise en œuvre puisque la dimension économique l'a emporté. On avait énormément d'arrivées d'immigration irrégulière dans les années 60, faut pas l'oublier, jusqu'en 74, qui était très mal maîtrisée. En 68, par exemple, l'Office national d'immigration, qui avait le monopole du recrutement de la main-d'œuvre, ne contrôlait que 18% des entrées. Ça veut dire que 82% des entrants le faisaient irrégulièrement. Donc on a agi dans l'urgence et on a mis beaucoup de temps à comprendre que cette immigration qui était arrivée dans le désordre allait rester. C'est-à-dire que on pensait que beaucoup de migrants allaient repartir chez eux. Donc on a construit une politique à la hâte de retour qui a échoué depuis 30 ans et on a très peu soigné d'une certaine façon la politique de l'intégration qui était en partie d'ailleurs co-gérée avec les associations, avec les médiateurs culturels, etc. Parce que c'était un sujet non pensé qu'il a fallu mettre en œuvre rapidement au tournant des années 70-80. Je ne sais pas s'il y a une mauvaise volonté du côté des pouvoirs publics ou du côté des personnes, mais ceux qui sont mal intégrés peuvent être tentés, effectivement, de regarder ailleurs les phares qui les animent. Ça peut être la mosquée, comme je le vois dans certaines thèses. Ça peut être autre chose. Beaucoup de ces éléments viennent de l'échec de l'intégration marginale de certains, parce que la plupart, dans toutes les enquêtes qui ont été faites, ont des parcours d'intégration qui correspondent à ceux des jeunes Français de milieux sociaux équivalents.
Vous dites cela, mais la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est à quel modèle souscrivez-vous, à quel modèle d'intégration souscrivez-vous l'un et l'autre? La France a été longtemps un pays d'assimilation.
Oui.
C'était le cas pour les, jusque même dans les années 60-70, pour les immigrés ou pour les enfants d'immigrés européens. C'est-à-dire, on assimilait, ce qui ne voulait pas dire nécessairement qu'on devait tous être fondus dans le même moule et sacrifier son identité, oublier d'autres fidélités possibles, mais il s'agissait d'assimiler l'histoire, la culture française, pour en être partie prenante. Le mot d'assimilation a disparu du vocabulaire, on lui a trouvé une tonalité presque coloniale, rendre pareil, et on a employé à sa place le mot d'intégration. Celui-là, aujourd'hui, aux yeux de certains, semble problématique. Je pense au rapport devenu célèbre, le rapport Thiot, pour Absolument. Une société inclusive. Et vous le dites vous-même, Catherine Vitol de Venden, on parle plus volontiers aujourd'hui de vivre ensemble. Assimilation, intégration, vivre ensemble. Alors, quel est l'enjeu de cette nouvelle terminologie? Que signifie-t-elle? C'est-à-dire, que propose-t-on aujourd'hui aux nouveaux arrivants et à leurs enfants en guise de participation à la vie nationale? Catherine Vitol de Venden.
Alors, d'une part, l'assimilation, c'était un phénomène à la mode. Il ne faut pas oublier, pendant tout le 19e siècle et jusqu'aux années 60-70 en France, qui existait aujourd'hui, ici, à l'époque, aussi aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que la politique des États-Unis à l'égard des nouveaux entrants était très assimilationniste jusqu'aux années 60, tout aussi assimilationniste que la France, puisque c'est aussi un grand pays d'immigration, de peuplement. Et donc, ils avaient à peu près la même politique à l'égard des nouveaux venus, assimiler, faire disparaître les caractéristiques individuelles de chacun pour se fondre dans une nouvelle société. Donc ça, c'était l'objectif de l'assimilation qui ensuite passait de mode. Et en France, donc, le secrétaire d'État à l'immigration de Valéry Giscard d'Estaing, Paul Dijoux, qui succède à M. Postel-Vinet, lance le terme de l'intégration, qui était un terme colonial. C'était le terme...
Ah, mais c'est celui-là qui est colonial,
voilà,
finalement.
Absolument, par Jacques Soustelle, dans l'Algérie coloniale, pour désigner les modes d'incorporation des populations du culture musulmane qui se trouvaient en Algérie. Et donc, c'est pourquoi ce terme a un peu mauvaise presse, notamment chez les jeunes issus de l'immigration qui sont dans les associations, parce qu'ils ont l'impression qu'on reprend un terme et qu'on veut le leur appliquer. L'autre difficulté, c'est que ça n'est ni un terme sociologique, il n'y a pas de définition véritablement de l'intégration, ni un terme même pour mesurer des critères. Toute une série de chercheurs essayent de trouver des critères d'intégration, mais le terme lui-même est très flou. Qui est intégré par rapport à qui? Il y a des tas de Français dits de souche, qui est une nouvelle appellation que certains se donnent, qui sont aussi très très mal intégrés, si j'ose dire. Donc le terme lui-même n'est pas très heureux, et le terme de vivre ensemble a été lancé par Georgina Dufoy lors de la marche des beurs de 1980, qui est un terme qui est plus volontiers employé, y compris dans les rapports, etc., parce qu'il est plus neutre, si j'ose dire, et qu'il suppose que les uns et les autres bricolent leur façon d'être dans la société française, tout en gardant quelques-unes de leurs caractéristiques sociales, culturelles, religieuses, ethniques, etc., avec des doses variées qui appartiennent à chacun. Il n'y a pas d'intégration globale. Chacun a un parcours d'intégration individuel d'une certaine façon, c'est un petit peu ça qu'on suppose dans le terme du vivre ensemble.
Stéphane Perrier.
Alors pour moi, il ne faut pas exagérer l'opposition entre l'assimilation et l'intégration, puisque elles ont en commun de promouvoir une forme d'unité culturelle de la nation. Je dis unité et pas uniformité. On a tendance souvent à opposer des partisans de la diversité à des personnes qui seraient partisans d'une prétendue uniformité. Mais du temps où l'assimilation était promue par tout le monde en France, on promouvait également de manière très forte la diversité culturelle française. Il suffit de relire nos grands historiens. Pour moi, ce qui s'est produit, c'est qu'à un certain moment, on a renoncé à promouvoir cette unité culturelle. C'est ce qu'on appelle parfois, de manière un peu simple, le multiculturalisme, qu'il soit revendiqué ou non. On a considéré que lorsqu'on parlait d'intégration, ça ne concernait que les valeurs, que ce qu'on appelle les valeurs de la République. Or, pour moi, c'est une division assez factice, parce que toute culture comporte des valeurs, et toute valeur naît dans une culture. Un peuple ne peut s'imprégner d'une valeur qu'en la remodelant conformément à sa culture. Même quand des valeurs ont été développées collectivement par plusieurs peuples, comme les valeurs européennes contemporaines, on voit bien qu'elles sont interprétées différemment selon les pays. L'égalité ou la laïcité ne signifie pas la même chose en France qu'en Angleterre ou en Allemagne. Par conséquent, je pense que en renonçant à promouvoir cette forme d'intégration culturelle, une forme d'acculturation plus ou moins importante, comme vous l'avez souligné, sur les immigrés, on a aussi mis en cause l'intégration par les valeurs et donc même l'insertion la plus simple dans la société française.
Oui, mais alors justement, Catherine Vittel de Vinden, vous dites dans un de vos deux derniers livres que la diversité fait partie du nouveau vocabulaire de la citoyenneté.
Tout à fait.
La diversité, c'est, me semble-t-il, signifie une mise à égalité de toutes les cultures. Donc, avec la diversité, on promeut une société multiculturelle. Est-ce, selon vous, le destin de la France? Et ce destin, vous paraît-il souhaitable pour tenir compte de son ou ses nouveaux visages?
Alors, sur une société multiculturelle, d'ailleurs je ne le défends pas nécessairement, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites au multiculturalisme, ceux même qui l'avaient mis en avant, par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas sont revenus dessus, mais une société de la diversité, oui, parce que d'une part la diversité c'est une des valeurs de l'Europe, l'Europe de la diversité, c'est même un des symboles de l'Europe, de la diversité des États, mais aussi de la diversité des sociétés des différents pays européens. Donc ça va avec un monde de la mobilité, un monde de la globalisation dans lequel nous sommes et où il faut faire une part à ceux qui sont venus depuis moins longtemps que d'autres. Alors ça, c'est un aspect important parce que la diversité, elle se décline en droit. Il y a toute une législation européenne de lutte contre les discriminations, par exemple. Et aujourd'hui, il est difficile de décliner la citoyenneté à la française, la citoyenneté révolutionnaire, sans faire une place à ces nouvelles valeurs qui sont la mise en œuvre de la diversité et également la lutte contre les discriminations, qui est une valeur nouvelle qui a été introduite par l'Europe, notamment par une directive de 1999 qui oblige tous les pays européens à lutter contre les discriminations. Et oui, mais... donc il y a une promotion de la diversité, de toutes les entreprises aussi qui se définissent comme citoyennes, vantent oui, mais... le fait qu'on c'est pas seulement la diversité raciale, ça peut être la diversité par âge, ça peut être la diversité homme-femme, ça peut être la diversité, oui, mais... et même la publicité dans le métro met en avant précisément la diversité des publics auxquels s'adresse telle ou telle publicité.
Alors,
ce sont aussi des clients.
Attends, alors, je voudrais quand même que vous précisiez des choses. Et je me référerais à un appel, la France métissée, lancé en vue de l'élection présidentielle de 2012 par la Fondation Terra Nova, pour promouvoir la diversité et faire bouger la République. Cet appel, vous le citez, Stéphane Perrier, dans votre livre. Alors, je vais vous le lire et vous demander à l'un et à l'autre votre réaction. Aujourd'hui enfin, la France commence à reconnaître la diversité de ses visages en politique, dans les médias, dans l'entreprise. Mais beaucoup s'arrêtent là. Ils acceptent la diversité des visages, mais pas la diversité des messages. L'identité nationale n'est plus ethnique, mais elle est encore culturaliste. Les Noirs, les Arabes et Asiatiques peuvent être français, mais à condition de s'assimiler, en adaptant la culture, les codes, les référents de la France d'hier. Donc de cela, Terra Nova ne veut plus... Elle veut que l'on passe de la diversité des messages à la diversité des visages à la diversité des messages. Est-ce aussi ce que vous voulez entendre quand vous dites que la diversité est une des composantes de la nouvelle citoyenneté, Catherine Vittel de Vendée.
Alors moi, je pense que je me situerais plutôt sur la thématique de l'égalité des droits. Pour moi, la diversité, c'est l'égalité des droits surtout. Et on est dans un pays où il y a encore beaucoup de discrimination, aussi bien dans les relations que les jeunes peuvent entretenir avec la police. C'est une récurrente des discours associatifs et des pratiques aussi, malheureusement. Des plafonds de verre pour l'entrée dans le marché du travail, en termes de logement, etc. Donc la diversité, c'est la reconnaissance de nos principes républicains, la diversité, l'accès aux droits égaux pour les uns et les autres, quelle que soit leur visibilité, comme on dit, et également des formes diverses de fraternité qui construisent précisément ce vivre ensemble dans la diversité, qui est le sort de la plupart des pays européens et des grands pays d'immigration du monde. Et l'identité nationale à la française n'a jamais été construite sur précisément des principes de diversité ethnique, religieuse ou pas. Elle est construite sur le contrat social, sur un projet philosophique de vivre ensemble inspiré de Jean-Jacques Rousseau et des révolutionnaires. Donc l'identité nationale, c'est faire une place égale à chacun, pénalisant pas ceux qui sont différents. C'est ça pour moi la diversité.
Stéphane Perrier.
Alors il y a deux points que je voudrais mettre en avant. D'abord, encore une fois, la grande question selon moi, c'est de savoir si on conçoit cette diversité inhérente à la société française, comme à toute société d'ailleurs, au sein d'un ensemble commun ou non. Est-ce qu'on considère que cette diversité culturelle est compatible avec l'existence malgré tout d'une culture commune, ou est-ce qu'on considère que la diversité est telle qu'il est vain, voire inutile, voire même nuisible, de promouvoir un élément commun en matière culturelle? Et je pense qu'on ne peut pas séparer cette question du projet politique commun. Il faut, selon moi, un certain socle culturel commun pour donner un sens au projet politique. Vous parliez d'identité nationale ou de conception de la nation. Dans la conception française, il est vrai qu'on intègre des valeurs, des éléments abstraits, mais on ne réduit pas l'identité à ces éléments-là. On cite toujours à propos de Renan son plébiscite de tous les jours, mais quand on lit le texte en entier, on voit qu'il intègre aussi des éléments hérités du passé. Il parle de ces deux choses qui constituent l'âme ou le principe spirituel d'une nation. Et c'est à mon avis une dérive de réduire complètement l'identité française à ces aspects abstraits. C'est une chose d'intégrer des valeurs à notre identité en considérant que notre pays ne serait plus lui-même s'il y renonçait. Et je pense que c'est à l'honneur de notre pays. Mais en revanche, réduire cette identité à ses composantes abstraites revient à vider l'identité de tout sens.
Oui, alors, oui, justement, d'ailleurs, c'est un peu ce que Habermas, vous le dites, Stéphane Perrier, propose pour l'Allemagne, mais c'est un modèle qui vaudrait, selon lui, pour l'Europe tout entière, sous le nom de patriotisme constitutionnel. L'identité collective, selon lui, doit être purgée de toute dimension culturelle pour se réduire à l'adhésion à des principes universels énoncés dans une constitution. Est-ce ainsi que les hommes vivent? On peut se poser la question, et là je vous donnerai un exemple, je vous demanderai ce que vous en pensez l'un et l'autre. L'exemple du Canada. Le gouvernement du Québec a adopté une loi qui oblige ceux qui offrent ou reçoivent des services publics à le faire à visage découvert. Interdiction du voile intégral. Eh bien, Justin Trudeau, parce que c'est au nom du gouvernement central, et plusieurs représentants des provinces anglophobes ont dénoncé avec une extrême sévérité la loi québécoise, contraire au multiculturalisme canadien. Et il a eu cette phrase très intéressante, Trudeau, « Il n'y a pas d'idée centrale au Canada ». Autrement dit, le Canada n'a rien à proposer comme modèle d'existence, comme forme de vie. C'est à chacun d'épanouir la sienne sans aucune hiérarchie entre ceux qui accueillent et ceux qui arrivent. Alors je vous le demande très clairement, qui choisissez-vous? Êtes-vous du côté du gouvernement québécois ou de Justin Trudeau? Et Pensez-vous que le modèle proposé par Justin Trudeau doit valoir pour la France et pour l'Europe, devenue, vous l'avez écrit Catherine Vitotte-Vinden, continent d'immigration malgré lui. Malgré lui peut-être, mais en tout cas, ça voudrait dire que la France, maintenant, vit au même rythme que l'Amérique du Nord et doit peut-être adopter les mêmes règles.
Alors moi, je dirais non.
Catherine
Vitotte-Vinden. La France ne doit pas vivre au même rythme que le Canada, que je connais bien d'ailleurs, parce que le Canada a une politique d'immigration, de peuplement. Ce qui est très différent de la France, qui a toute une série de nouveaux arrivants, mais tous ne restent pas. On a un solde migratoire annuel qui est relativement conséquent, donc entre la différence des arrivées et des sorties du territoire. Et le Canada sélectionne les nouveaux arrivants selon des critères de nationalité, de langue, de qualification. Pas de nationalité, mais de langue, de qualification, etc., d'âge. Et il s'agit de faire des nouveaux Canadiens, mais aussi il faut respecter les droits des anglophones et des francophones. C'était d'ailleurs l'origine du multiculturalisme canadien. C'est par évolution qu'il s'est appliqué aux migrants, il ne faut pas l'oublier. Et d'autre part, il faut aussi respecter les droits des autochtones, qui sont les Indiens. Donc, à l'intérieur de ce multiculturalisme, il y a des tas de choses qui n'existent pas dans le contexte français. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le multiculturalisme canadien correspond à une société qui se définit comme tout entière ou presque sortie du bateau, ce qui n'est pas le cas en France. On adore, il y a une sorte de crispation autour du mythe de l'autochtonie qui est très très fort en France et qui réapparaît ici et là dans certains discours politiques, alors qu'un Français sur quatre a un grand-parent ou un arrière-grand-parent étranger. On s'invente un peu une histoire avec des racines qui ne sont pas toujours réelles. Je pense que moi, je suis tout à fait sur la position d'Habermas. Il faut qu'il y ait un socle commun de valeurs qui unisse les gens dans un projet politique commun, mais avec en acceptant toute une série de différences gênent pas ce modèle. Voilà, qui ne gênent pas ce modèle. Oui. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas nos principes fondateurs. Ce que disent les jeunes, parce que ma vie, c'est aussi de faire des thèses et de lire leur terrain ou d'avoir fait moi-même du terrain. La plupart de ce que disent les jeunes des banlieues, pour simplifier, c'est en fait, certes, en France, on écrit partout liberté, égalité, fraternité, mais on ne respecte pas ces principes. Dans les émeutes des banlieues qu'on a eues depuis longtemps, ce qui est dit, c'est vous proclamez ces valeurs, mais vous ne les respectez pas. Donc, nous, on croit à ces valeurs-là. Souvent, ils disent ça, on croit à ces valeurs. Mais en fait, la réalité est tout à fait différente. Donc, on va chercher ailleurs d'autres modèles.
Attendez, Catherine Vitotte-Vinden, oui, on croit à ces valeurs, mais c'est aussi ces valeurs-là un certain nombre de jeunes de banlieue, justement, invoquent pour réclamer l'autorisation du voile islamique à l'école, c'est bien ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait au nom des droits de l'homme, et éventuellement aussi pour protester contre l'interdiction du voile intégral. Car ils ne se prévalent pas nécessairement de la religion, ils disent « c'est mon droit, c'est ainsi que je veux m'habiller ». Et donc vous voyez bien que là, on ne peut pas simplement se contenter d'invoquer des valeurs, il faut introduire peut-être une façon d'être, une manière d'exister dans le monde, qui fait que, oui, en France, il y a une tradition de la mixité qui ne peut pas tolérer ce type de règlement de la coexistence des sexes. Et cela veut dire que la France ne se définit pas uniquement par des principes, mais aussi par une certaine forme de continuité culturelle.
Les identités et les définitions culturelles de la France sont évolutives. D'ailleurs, si elles n'évoluaient pas, elles mourraient, si j'ose dire, par l'apport de toute une série d'éléments extérieurs qui sont dans l'air du temps, si j'ose dire, des effets de mode, etc. Et puis aussi par les nouvelles populations qui sont le véhicule de ces valeurs culturelles. Donc, de toute façon, les identités évoluent. Elles ne sont jamais figées. Et d'autre part, la loi de 2004, quand même, qui a été interprétée comme l'interdiction l'interdiction du foulard à l'école fonctionne assez bien. On n'a plus tellement d'affaires de foulard à l'école, à ma connaissance. Dans les lieux publics, il est bien rappelé que toute une série de phénomènes de visibilité excessive, dites ostentatoires, d'appartenance à une religion, sont bannis, et il y a un relatif respect de se découvrir le visage si on fait une photo d'identité à des fins administratives, etc. Et dans les institutions d'autorité, par rapport au Canada, il n'y a pas tellement de gens qui revendiquent de s'habiller différemment des autres. Donc, il y a quand même un respect de ce vivre ensemble, même si il y a des influences extérieures qui poussent certains jeunes à porter le foulard ou à s'habiller de telle ou telle façon, qui viennent parfois de mosquées qui sont financées par l'étranger.
Stéphane Berryer.
Alors, je ne commenterai pas la situation canadienne parce que je la connais trop peu. En revanche, je suis en désaccord avec la phrase de Justin Trudeau, si je la comprends bien, sur laquelle il n'y aurait pas d'idée centrale. Pour moi, un pays sans idée centrale ne peut plus avoir de...
Sans identité centrale.
Sans identité centrale, pardon. Je suis en désaccord aussi avec cette formulation. Un pays qui n'aurait pas d'identité centrale ne pourrait pas non plus avoir de projet politique. Et d'ailleurs, c'est une idée assez récente de penser le contraire. Je cite un moment dans un ouvrage... Des extraits du projet socialiste en 1980, ou des extraits des propos de François Mitterrand à cette époque-là, qui disait en substance « Rien de grand ne s'est jamais fait dans les temps modernes s'il n'était pas assis sur un puissant sentiment d'identité nationale ». Ça ne veut pas dire que c'est figé, vous avez tout à fait raison. Et il y a des manières positives, constructives, et des manières négatives, tournées vers l'exclusion, de concevoir une identité. Mais je pense que à y renoncer complètement, à penser que seuls des principes constitutionnels, aussi estimables soient-ils, puissent suffire à faire société, on se trompe. Je le pense d'un point de vue théorique, et je pense que l'expérience des dernières décennies en Europe occidentale l'a malheureusement confirmé. On voit bien qu'on a en parallèle à un mouvement de rapprochement, de mélange de populations diverses, un mouvement... contradictoire, d'éloignement réciproque qui se manifeste d'un côté par ce qu'on appelle le communautarisme et d'un autre côté par la progression du vote Front National dans certains territoires. Je pense que c'est le résultat d'une forme de démission collective et de réduction de la collectivité à un ensemble trop minimal de facteurs, d'éléments.
Alors, vous dites donc qu'il y a une crise aujourd'hui, une crise de l'intégration. Pour répondre à cette crise, voici la question que je voudrais vous poser. Faut-il aujourd'hui réguler les flux migratoires? Faut-il fermer les frontières, ou en tout cas ne pas les laisser aussi ouvertes? Ou bien faut-il respecter le devoir d'hospitalité? Et même, c'est ce que vous dites, Catherine Vittel de Vinden, instaurer, accepter le droit à la mobilité comme un des nouveaux droits de l'homme du XXIe siècle. Catherine Vittel de Vinden.
Alors, je pense qu'effectivement, déjà, il y a une politique migratoire, une politique nationale de chaque pays européen, et une politique qui se définit essentiellement à Bruxelles, entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen, pour ce qui est des flux. Donc, les flux, c'est décidé à Bruxelles, avec bien sûr le concours des États, et tout ce qui est intégration, c'est décidé au niveau national de chaque pays européen, ou même à un niveau inférieur, celui des Länder, celui des régions, selon le régime administratif des différents pays. Donc il y a une séparation, si j'ose dire, des compétences de ce point de vue-là. Alors pour ce qui est des flux, déjà il y a des flux qui sont inévitables. On respecte les traités que l'on a signés, notamment sur l'asile. On en a beaucoup parlé l'an dernier. Tous les pays européens ont signé la Convention de Genève de 1951 sur l'asile. Donc, on applique le droit d'asile dans les différents pays européens. Il se trouve qu'on a eu des flux plus importants, mais pas massifs, en 2015. 1 million sur 506 millions d'habitants sur le territoire européen. Donc, c'est à côté d'autres pays qui en ont accueilli.
Oui.
Beaucoup, c'est pas énormément.
Vittel de Vinden, quand même, on applique le droit d'asile, la France le fait.
Oui.
Mais est-ce que ça va de est-ce que cette politique du droit d'asile doit s'accompagner, selon vous, d'une expulsion des déboutés du droit d'asile? Ou bien ceci en tant que doivent-ils rester en France au nom d'un nouveau principe qui serait, vous l'avez dit, le droit à la mobilité?
Non, je pense qu'il faut respecter le droit. Après, un certain nombre de déboutés ne sont pas expulsables au titre même de la Convention de Genève parce que on ne reconduit pas la clause de non-refoulement, les gens vers des pays en guerre, par exemple. Ceux qui ont toute une série de raisons, des maladies qui ne peuvent pas être traitées dans leur région, etc. Une partie des personnes ne peuvent pas être reconduites chez eux, les mineurs d'eux-mêmes, etc. Donc, il y a une petite partie des déboutés qui peuvent être reconduits dans leur pays d'origine. Et on prononce un certain nombre de reconductions. Chaque année, il y a à peu près 35 000 reconductions prononcées en France, mais on en applique peu parce que, d'une part, ça coûte cher et parce que, parfois, on le fait dans l'illégalité. Ceci dit, pourquoi pas appliquer le droit, etc. Par ailleurs, il y a d'autres principes. La Convention de 1989 sur les droits de l'enfant. On est obligé dans les pays européens d'accueillir, d'éduquer, de former les mineurs jusqu'à l'âge de la majorité. Donc ça, c'est des flux qu'on ne peut pas traiter comme des gens qu'on va reconduire tout de suite chez eux. Le droit au regroupement familial, on peut discuter des critères qui peuvent être plus ou moins sévères, mais on ne peut pas interdire, puisque le droit de vivre en famille est un principe inscrit dans la Constitution. Donc il y a des quantité de flux qui sont incompressibles. Et en fait, les politiques migratoires, tout en faisant semblant de dire qu'elles vont réguler, n'ont une marge de manœuvre que très faible. Parce qu'une grande partie des flux, aujourd'hui, l'immigration de travail, sur laquelle chaque pays a un pouvoir de dire oui ou non, ça n'est qu'une toute petite... Et de l'immigration de travail pour les non-européens, parce que les Européens ont la liberté de circulation, d'installation et de travail, pour les non-européens, ne sont qu'une toute petite partie, aujourd'hui, des flux migratoires dans les pays européens.
Ce qui vous fait dire, Catherine Vita de Vanden, qu'un monde sans frontières n'est pas dénué d'utopie, que la fermeture des frontières est une idée fausse, coûteuse, inefficace, qui va à l'encontre de la rencontre du monde. Mais on peut se demander à ce moment-là ce que devient même la souveraineté nationale si précisément un pays ne peut pas décider de lui-même qui il reçoit et qui il n'admet pas. Donc là, c'est la politique même qui se trouve mise en cause dans une de ses fonctions régaliennes principales, Stéphane Périer.
Oui, je suis d'accord pour dire que la fermeture complète des frontières est une idée fausse, est impraticable et serait même une mauvaise chose. En revanche, je pense qu'il faut contrôler les flux. Il faut d'abord dire que ce contrôle doit être intégré, selon moi, dans un projet plus vaste. L'immigration n'est pas du tout une question secondaire, mais c'est une question seconde. On ne peut pas espérer régler les problèmes d'intégration uniquement par une action sur l'immigration elle-même. Il faut aussi que nous retrouvions un projet collectif mobilisateur et que nous le promouvions. Quant aux flux, il est vrai qu'il faut les distinguer. L'asile est moins un flux migratoire qu'un droit pour le demandeur et un devoir pour le pays d'accueil. Donc il ne s'agit pas de réduire ce flux. De même, l'immigration étudiante est positive à la fois pour les étudiants, pour le pays d'accueil, pour le pays d'origine. Elle existait déjà au Moyen-Âge et donc il ne s'agit pas non plus de la réduire. Pour moi, l'élément clé, c'est d'avoir un contrôle plus strict sur l'immigration définitive, notamment quand elle est familiale. Il s'agit à la fois de vérifier que les flux sont compatibles avec nos capacités d'intégration et surtout que les personnes concernées, celles qui veulent s'installer de manière définitive et non pas pour quelques années seulement, souhaitent participer à notre projet commun, souhaitent s'intégrer, c'est-à-dire se rapprocher de notre culture, de nos valeurs, mais aussi de nos mœurs. Or, c'est ce contrôle qui fait presque défaut. On a un petit contrat d'accueil d'intégration dont le contenu est faible, dont le non-respect n'emporte pas nécessairement de conséquences négatives. Je pense qu'il faut être beaucoup plus volontariste à cet égard, aussi bien en donnant des outils aux immigrés pour s'intégrer et en ne renouvelant pas leur titre de séjour si jamais il apparaît qu'ils ne sont pas dans une démarche d'intégration.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça,
Pourquoi pas, mais je dirais que ce qui a été intégrateur dans le passé, on n'avait pas d'instruments tellement plus efficaces dans les années 60-70. Ce qui intégrait les gens, c'était le travail, le monde du travail.
Mais oui, justement, si vous avez une immigration de peuplement alors que les possibilités de travail sont de plus en plus restreintes. Vous avez là une véritable difficulté.
Je ne dirais pas que il est évident que le chômage est un facteur aggravant, mais on rencontre des problèmes assez similaires dans des pays où le taux de chômage est très faible. Pour moi, ce qui était clé, et là vous avez raison, ce n'était pas des outils, mais c'était la volonté, je dirais, prosélyte de la société française dans son ensemble d'intégrer les immigrés. Et c'est pourquoi je disais que tant que nous n'aurons pas retrouvé cela de manière interne, les contrôles et les outils resteront d'une efficacité tout à fait restreinte.
Alors effectivement, je pense qu'il y a une pression aujourd'hui migratoire qui n'est pas seulement d'ailleurs vers le nord de la planète, mais vers le sud. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de flux qui vont vers le sud de la planète que vers le nord de la planète. Donc ça, c'est quand même un élément nouveau. Le monde est entré en mouvement. Faiblement, puisque les migrations, c'est seulement 3,5% de la population mondiale pour les migrations internationales. 120 millions en gros vers le nord et 124 millions vers le sud, 244 millions de migrants en tout. C'est un chiffre qui a été multiplié par 3 en 40 ans. Donc ça, c'est très important. Le monde rencontre le monde, d'où de nouvelles interrogations sur le vivre ensemble dans les pays où arrivent les gens. Ça, c'est clair. Deuxième point, je pense qu'il est inévitable de mettre sur la table la question du droit à la mobilité, comme le faisait déjà Kant au XXIe siècle, parce que la mobilité fait partie de la modernité. On est dans un monde de plus en plus fluide, où tout circule, sauf les personnes. Si vous êtes européen, vous pouvez circuler sans visa pendant une période de 3 mois dans 173 pays. Si vous êtes soudanais, érythréen ou afghan, ça se réduit à peine 10 ou 20 pays selon que vous représentez ou pas un risque migratoire, quelles que soient individuellement vos qualités respectives. Ça dépend de votre passeport. Donc ça, c'est une inégalité très forte. Les deux tiers de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement.
Attendez.
Donc ça, c'est un problème.
C'est un problème, d'accord, mais
est-ce
qu'on
autrement.
Peut fonder un monde sur la mobilité? Un monde, c'est ce que dit Hannah Arendt quand même, c'est la patrie non mortelle des êtres mortels que nous sommes. Il faut une certaine forme de permanence pour qu'une vie humaine soit vraiment humaine. Si on entre dans la fluidité générale, c'est comme si on changeait d'élément. C'est-à-dire, nous sommes plus des êtres terrestres, mais des êtres aquatiques, ou dans le brassage, etc. C'est la société liquide dont parle Zygmunt Bauman. Est-ce qu'on peut souhaiter ça, une société entièrement liquide.
Elle n'est jamais entièrement liquide, puisque les gens ont toujours des points d'ancrage. D'ailleurs, ils ne vont pas dans n'importe quel pays quand ils vont migrer. Ils vont dans des pays où ils ont des liens familiaux, linguistiques, culturels, parfois ex-coloniaux, etc. D'autre part, quand on ouvre davantage les frontières, un tout petit peu plus, on a des gens qui font des sortes d'allers-retours avec leur pays. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans un pays où ils vont travailler, ils vont renvoyer de l'argent chez eux. Il ne faut pas oublier que si le monde ne pouvait pas circuler du tout, les écarts entre les riches et les pauvres seraient encore plus importants, puisque les transferts de fonds annuels, c'est 230 milliards de dollars. C'est 3 fois l'aide publique au développement. Donc on aurait à nos portes encore plus de pauvreté et potentiellement encore plus de violence que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qu'il faut aussi avoir en compte. Et puis, surtout, quand les frontières sont plus ouvertes, les gens circulent, tout en ayant des points d'ancrage chez eux et là où ils vont. Et si on les ferme, eh bien on a tous les contournements. 30 000 morts aux frontières en Méditerranée. On a les sans-papiers par million dans le monde. On a toute une série de gens qui sont sans droit, ce qui n'est pas du tout satisfaisant.
Stéphane Perrier.
Oui, non, je pense que renoncer à contrôler les flux migratoires, c'est une forme de renoncement à la souveraineté et à la politique, et que quand bien même il serait avéré que si on se place d'un point de vue individuel ou d'un point de vue économique, ça pourrait fonctionner, ce dont je doute si jamais il y avait une trop grande ampleur des mouvements, il n'en resterait pas moins que ça donnerait un système qui ne fonctionnerait que pour les gagnants, que pour ceux qui s'en tirent le mieux. La fluidité, c'est très bien. Moi, je l'ai dans mon travail, je l'ai dans ma vie, mais elle fonctionne très bien pour une élite. Elle ne peut pas être la règle de fonctionnement d'une société entière. Il faut aussi des éléments de permanence, de continuité, de contrôle, qui permettent à la société de faire des choix collectifs et de décider de son destin commun.
Oui, alors je vous citerai pour finir un texte de Pierre Manant, Catherine Vidal de Vinden. Il dit « Il n'y a pas de droit de l'homme à devenir citoyen du pays de son choix. Si un tel droit avait été reconnu dans le passé, jamais les nations européennes n'auraient été construites et les migrants n'auraient pas où aller. En attribuant des droits aux individus détachés et en restreignant ceux des communautés instituées, on se rend aveugle au lent effort d'éducation que réclame la formation d'une communauté humaine viable. Ne nous croyons pas obligés de déraisonner pour prouver notre humanité. »
Alors, je rappelle que l'immigration, ça n'est que 3,5% de la population mondiale. Donc la plupart des sociétés sont stables. Et en Europe, par exemple en France, la proportion des étrangers est assez faible. Elle est très stable d'ailleurs depuis 20 ans, puisqu'on a 3,7 millions d'étrangers en France. Et on a à peu près autant de nouveaux arrivants que de nouveaux Français par naturalisation ou naissance et vie sur le territoire français. Donc ne dramatisons pas les sociétés sont majoritairement des sociétés de sédentaires et il n'y a qu'une toute petite partie de gens qui sont mobiles.
Bon, alors ne dramatisons pas, c'est votre conclusion, ce n'est pas forcément celle de Stéphane Perrier. Stéphane Perrier, vous publiez La France au miroir de l'immigration aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat, Catherine Vitole de Vinden, deux livres, L'immigration aux éditions Erol et La question migratoire au XXIe siècle aux presses de Sciences Po. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La vie et la mort de Paul Lyonnais ». Mes invités seront Jean-Pierre Le Goff et Philippe Reynaud. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jacques Hubert.